c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Connaissez-vous cet air ? Il fait partie de l'ouverture de Guillaume Tell, un célèbre opéra de Rossini. Ce compositeur est né à l'époque de la Révolution française, en 1792. Les trompettes que vous entendez lancent un appel aux armes. Elles symbolisent le combat pour la liberté. Guillaume Tell est un Suisse, un homme ordinaire, qui devient héros en luttant contre la domination autrichienne. Rossini nous délivre là un message politique, car lui aussi, dans son pays en Italie, il est sous la domination autrichienne. Mais évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas parler directement de politique. L'Italie n'est pas encore unifiée à cette date. Nous sommes en 1829, et c'est le dernier opéra que compose Rossini. Je vais vous parler de la précocité de ce compositeur, de sa célébrité et des polémiques qu'il a suscitées à son époque. Précoce, certes, il le fut, avec des parents tous deux musiciens. Son père jouait du cuivre, sa mère était chanteuse d'opéra. Il composa son premier opéra à l'âge de 18 ans, à Venise. Nous sommes alors en 1810. C'est le début de l'époque romantique en musique. Celle-ci va durer un siècle environ, jusqu'en 1900. Mais Rossini est inclassable. Il est difficile de le mettre dans la catégorie de musique romantique. Et lui-même n'aimait pas beaucoup ce courant. Il semblait plus léger, il préférait faire rire, émouvoir, faire passer des messages. Il revendiquait surtout une grande modernité musicale. Donc il voulait se démarquer. Mais on peut déceler du romantisme dans certains airs, comme dans son opéra « La Dame du Lac », qu'il a composé en 1819, sur un poème de Walter Scott. Prenons l'exemple de l'air « Tanti affetti » chanté par Cecilia Bartoli. Tant d'émotions. La dame du lac est bouleversée. Elle a un choix terrible à faire entre son amant et son devoir, son père. Est-ce qu'elle ne va pas trahir sa patrie ? Est-ce qu'elle ne va pas trahir son amour ? Cette expression des sentiments est bien romantique, vous l'accorderez. Et surtout, ce sentiment est porté très haut par le bel canto. Ce fameux beau chant où le compositeur va pousser la voix, l'obliger à sortir de ses limites, aller plus loin. Et les vocalises vont permettre de longues envolées vocales.
Thank you.
Le dénouement est heureux. Elle n'a pas à choisir finalement. Et c'est pour ça qu'elle répète « Felicita, je suis heureuse, je suis heureuse. Tout s'est bien passé finalement, je n'ai pas eu à choisir. Felicita. » Ce bel canto était vraiment admiré pour la prouesse vocale qu'il demandait. Mais certains trouvaient que c'était trop exubérant, qu'il y avait trop de débordements. On était loin de l'esprit classique. Et justement, on a changé d'époque. Ce n'est plus l'époque classique. On est dans l'époque romantique. Et les musiciens vont vouloir vraiment innover, tout en gardant une inspiration venue des grands compositeurs classiques. Et Rossini va composer un Barbier de Séville sur le thème du mariage de Figaro que Mozart avait lui-même mis en scène avec ses noces de Figaro. La pièce de Beaumarchais a été écrite avant la Révolution française, en 1784. Et on peut dire que c'est un manifeste pré-révolutionnaire. Le valet s'avère plus malin que le maître. La noblesse est tournée en ridicule. Mais la première représentation du Barbier en 1816 est un véritable fiasco. Un acteur glisse, il tombe sur scène, un chat traverse la scène. Rossini lui-même, qui monte sur scène pour présenter son œuvre, est moqué parce que son costume est trop serré et moule ses formes généreuses. Tous ces incidents provoquent un immense chahut. Et dans la salle, il y a des adeptes d'un autre compositeur, Paisiello, qui lui aussi a écrit un Barbier. Et donc, ils vont siffler toute la représentation. À cette époque, Balzac le raconte bien dans Les Illusions perdues, qui parle de Paris à la même époque, des petits groupes sont payés pour faire la clape, c'est-à-dire encourager le spectacle, et d'autres sont payés pour au contraire le siffler et le huer. C'est aussi le début de la critique musicale dans les journaux. Et justement, le journal Le Figaro, puisqu'ici il s'agit du personnage Le Figaro dans Le Barbier de Séville, eh bien le personnage de Figaro a dit à son maître, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. En fait, c'est un manifeste pour la liberté d'expression. Et cette devise va être prise par le journal Le Figaro, qui est créé en 1826, sous la Restauration, justement pour faire un défi à la censure du roi Charles X. À l'époque, c'est un journal satirique, il est anticlérical, opposé à la monarchie. Mais ironie du sort, en 1832, on a changé de régime et le journal Le Figaro est racheté par des monarchistes. L'air le plus connu du Barbier de Séville, c'est L'argot al factotum, voici l'homme à tout faire. Il est joué sur toutes les scènes du monde, il est très très célèbre. Et dernièrement, en février 2024, le baryton Florian Sempé l'a chanté au Capitole de Toulouse.
La 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 la
Que raconte Figaro dans ce fameux air, l'argo al factotum. Faites place à l'homme à tout faire. Me voilà. Je suis un barbier de qualité, barbiere di qualità. Je suis le plus heureux des hommes, fortunatissimo per verità. Donc tous les clients appellent Figaro, venez me faire une coiffure, venez me peigner, venez me raser. Voilà, je suis appelée de toutes parts. Attendez, un par un, uno alla volta, uno alla volta, per carità, s'il vous plaît. Ne soyez pas si pressés, tout le monde sera servi. Figaro, oui, je suis là, Figaro. Figaro en haut, Figaro en bas. Oh là là, de plus en plus vite, je cours comme l'éclair. Je suis le factotum de la cité. Ah, oh, bien joué, Figaro. Bien heureux en vérité. La chance sera toujours avec toi. À 31 ans, en 1823, il a déjà écrit 34 opéras, ainsi que des œuvres pour voix et orchestre, dans lesquelles il fait passer des messages, par exemple pour la justice. C'est le cas de La Pivoleuse, un opéra qu'il a composé en 1817. Dans son ouverture, on peut entendre un sinistre passage, puisque Ninetta, Annette, est condamnée à l'échafaud. Elle monte à l'échafaud pour une cuillère en argent manquante, que l'on finit par retrouver dans le nid d'une pie. Mais cette servante était surtout indésirable, car elle était amoureuse du fils de la maison. Et il est interdit à l'époque de franchir les barrières de classe. C'est cela qui dérange surtout, et pourquoi elle est condamnée. Dans l'opéra de Rossini, une fin heureuse est trouvée, puisqu'on retrouve la cuillère dans le nid de la pie, d'où le titre La pie voleuse, mais en réalité, dans les faits, elle a réellement été exécutée. Rossini passe aussi des messages pour la liberté, comme dans son Moïse en Égypte, qu'il a composé en 1818. Pour sortir d'Égypte où les Juifs étaient retenus en esclavage, il priait. Et ce thème, bien sûr, a été repris par Verdi dans son célèbre Nabucco, le cœur des esclaves. C'est encore une allusion à la domination de l'Italie par l'Autriche. Puisqu'on ne pouvait pas parler politique, on s'identifiait à des personnages de la Bible, par exemple, qui cherchaient eux aussi à s'émanciper et à se libérer. Et d'ailleurs, à l'époque de Rossini, on pouvait assister en Europe et dans le monde à divers événements fameux, comme le couronnement de la reine Victoria en 1838, qui se vit offrir par l'Inde, colonisé à l'époque par les Britanniques, un diamant de 186 carats, qu'on appelait « montagne de lumière ». Ce diamant a été retaillé pour servir de pierre centrale à la couronne d'Élisabeth II, par la suite. À l'époque aussi, la première maison de couture moderne a été créée à Paris, par un Anglais, en 1857, et c'est le début du prêt-à-porter. On assiste aussi à la construction du château de Neuschwanstein, par Louis II de Bavière, en 1864. Vous savez, c'est le fameux château qui a inspiré les studios Disney pour celui de La Belle au bois dormant. Un choc aussi, un assassinat politique en 1865. Aux États-Unis, le président Lincoln est assassiné dans un théâtre de Washington par un acteur. Celui-ci a voulu déstabiliser le gouvernement après la guerre de sécession. Il veut encourager le Sud à se soulever à nouveau. Je vais vous parler de la célébrité de Rossini et des polémiques qu'il créa. Tout le monde se dispute le célèbre compositeur italien. Il produit des concerts dans toute l'Europe. Il est appelé dans toutes les capitales musicales, Vienne, Londres, Paris. Et finalement, c'est à Paris qu'il s'installe. Le régime de la Restauration a réussi à faire venir le maestro pour donner aux Français du divertissement. après tous les drames de la Révolution et de l'Empire. Et pour que le prestige du maestro retombe sur le gouvernement qui souffre d'un manque de légitimité. Célèbre, Rossini le fut, immensément même, à tel point que l'on parlait de mode du rossinisme à Paris, à l'époque de la Restauration, lors de son premier séjour à Paris, et même au moment du Second Empire, lors de son second séjour. Sa popularité était telle que les journaux ironisaient sur la fièvre rossinienne, la rossinite aiguë qui s'était emparée des spectateurs, la rossinomanie. Ainsi, lorsqu'il s'installe à Paris en 1824, il est reçu dans un grand banquet. Cela lui fait très plaisir car c'est un bon vivant, Rossini. Vous connaissez sans doute le tourneau Rossini, une pièce de bœuf à laquelle il a fait rajouter une tranche de foie gras et des truffes. Rossini devient directeur musical du théâtre italien sur les grands boulevards. C'est le théâtre le plus en vue à l'époque, le plus couru. Même si l'Opéra de Paris a été construit en 1861, il n'est pas encore inauguré à l'époque. Il le sera en 1875. Donc au théâtre italien, les fans de Rossini se pressent à toutes les représentations. On les appelle les dilettantes, du latin qui veut dire apprécier, se délecter, car ils apprécient le style de musique de Rossini, mais sans la connaître vraiment. Ce ne sont que des amateurs, d'après les vrais mélomanes, des dandies, qui sont chics et modernes et qui ont tout leur temps à passer, puisqu'ils ne travaillent pas, dans le théâtre. Mais pourquoi le compositeur lui-même a-t-il tant défrayé la chronique ? C'était un véritable phénomène médiatique à l'époque. Eh bien, il s'est montré moderne, il s'est montré original, surtout pour l'utilisation qu'il faisait des instruments percussifs en particulier, les trompettes que vous avez entendues ici par deux fois. Les médisants l'appelaient Signor Vaccarmini, comme s'il faisait un bruit phénoménal avec ses instruments. Et même Monseigneur Tamburocini. Il était caricaturé au milieu de ses instruments. Il utilise même des canons, comme à la fin de l'hymne à Napoléon III, qu'il a composé à la demande de celui-ci, pour la remise des récompenses aux dernières innovations lors de l'exposition universelle à Paris, en 1867. Rossini meurt l'année suivante, à Paris, où il avait choisi de vivre durant 23 années de sa vie. Lors du rapatriement de ses cendres dans sa ville natale en Italie, on joue la prière qu'il a composée pour son Moïse en Égypte. C'est une prière qui demande à Dieu la délivrance de ton trône étoilé. Seigneur, écoute-nous, délivre-nous. Rossini a été longtemps malade lors de son second séjour à Paris, mais il continuait de composer. Il a écrit par exemple « Les petits péchés de vieillesse », un Stabat Mater et une petite messe solennelle. Vous voyez les jeux sur les mots, l'ironie qu'il montrait envers lui-même, car une messe solennelle ne peut pas être petite. Les petits péchés se font plutôt dans la jeunesse. Et Rossini, toujours un bon vivant, organisait des soirées musicales chez lui le samedi soir. Il recevait les nouvelles générations de compositeurs et d'interprètes. Parmi les invités, on pouvait rencontrer Liszt, Verdi. Les journaux ont essayé de défaire sa réputation, mais rien n'y faisait. Sa musique a tout dominé. Ses fans étaient peut-être superficiels, mais nous, pourrons-nous retenir nos larmes? Ne va-t-on pas courir écouter son opéra, Cendrillon, Cenerentola, joué cette année au Capitole de Toulouse? Ou un récital de ses airs en duo entre Karine Deshaies et Florian Sempé? Merveilleux chanteur que l'on retrouve le lendemain, aux Victoires de la musique. Il est toujours aussi apprécié de nos jours, car il est émouvant, exaltant, amusant. Ses trompettes, son bel canto, la diversité de ses styles. Moderne, créatif, libre, on aime ses messages pour la liberté. On aime sa critique sociale. Nous allons retrouver tous ces thèmes au cours des émissions sur les compositeurs de l'époque romantique. Je vous parlerai de Berlioz, de Verdi, mais aussi de Chopin et de Liszt, puisque le piano devient l'instrument moderne par excellence. Et la place des femmes, me diriez-vous? Même minimisée, elle est marquante. Je vous parlerai de Clara Schumann et de Fanny Mendelssohn, ainsi que de leurs augustes maris ou frères. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.